Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Suivez les petites mouches brunes lourdes. Soyez accompagnés d'un chien détecteur et rendez-vous dans le Périgord. Toutes les truffes sont-elles comestibles ? Étonnamment, non. Pour en savoir plus, perspective scientifique si on cultivait la truffe par Sophie Pillot, réalisation Marie-Christine Closet, première diffusion sur France Culture le 29 septembre 1992.
Est-ce que vous voulez qu'il cherche maintenant ?
Ah.
On le lâche ? Nous lâchons Arnaque ? Hein ? On y va ? Allez, cherche la truffe. Cherche, cherche. Cherche la truffe, Arnaque. Cherche-la, cherche. Cherche, mon chien. Cherche la truffe, cherche-la, cherche. Ah, vous voyez, il gratte des deux pattes. Il a l'air très précis, vous entendez gratter. Bon, j'enlève pour qu'il n'abîme pas cette truffe s'il y en a une. Ce garçon, il a bien marqué ici. C'est peut-être une truffe de l'année dernière qui est restée. C'est peut-être une truffe de l'année, je ne sais pas. Attends, Arnaque. Tiens.
La voilà.
Voilà. Voilà la truffe. Alors, vous la faites respirer au chien pour qu'il soit récompensé, la truffe. Et alors maintenant, il a sa récompense. Tiens, voilà, petit bout de viande. Et il est prêt à repartir chercher d'autres truffes. Ça l'amuse beaucoup.
Rappelons que la truffe apparaît dans le sol au printemps, mai-juin, et n'est récoltée que pendant l'hiver, en décembre, janvier ou février, 6 mois pour atteindre la maturité. Rappelons aussi qu'entre le moment où vous plantez vos arbres, par exemple des chênes et des noisetiers, et le moment où vous récoltez votre première truffe, il va s'écouler pour un noisetier au minimum 4 ans et pour le chêne 8 ans. Monsieur Théard de Chardin a décidé il y a quelques années de planter une truffière. Et puis il a dressé un chien à trouver des truffes. Car si l'on sait aujourd'hui comment faire pousser la truffe, on utilise toujours les moyens traditionnels pour la découvrir.
Alors il y a plusieurs manières de trouver la truffe. Quand on n'a pas de chien, les gens qui n'ont pas de chien la cherchent à la marque. C'est-à-dire que 4 ou 5 jours après une grosse pluie, il y a une craquelure du sol. La truffe grossit très vite et elle craque la terre. On peut trouver une truffe à la marque. Les braconniers connaissent bien, ils mettent dans la marque de truffe quelques graines de céréales qui germent. Et puis après, ils voient pousser un grain d'orge, une tige d'orge ou de blé ou de seigle. Et ils vont chercher leur tige de seigle et donc la truffe. On la trouve donc à la mouche. On la trouve également cette petite mouche qui se pose sur une truffe qui est déjà en état de presque maturité. C'est une mouche couleur bronze, assez brune, bronze, qui est une mouche un peu lourde qu'on va bien démarrer. Elle est, en général, elle fait la ponte de ses œufs sous des cailloux à la hauteur, à la verticale d'une truffe. Alors on cherche cette mouche contre le soleil et contre le vent. Quand on la voit, on marque l'endroit avec un petit bâton. Puis en bonne saison, on va chercher la truffe. En général, on la trouve. Et puis la méthode la plus expéditive, la plus commode, c'est quand même le chien. Autrefois, on chassait avec le porc, qui pose des problèmes de toutes sortes, de commodité. Et puis le porc la mange, alors que le chien, lui, se contente de la récompense qu'on lui donne. À chaque truffe, il a une petite récompense qu'on a dans la poche et ça lui suffit. Et il chasse la truffe avec enthousiasme. Ça se passe bien en général. Le chien est le meilleur détecteur. Alors il y a des détecteurs maintenant électroniques enfin, sont des essais qui ne donnent pas satisfaction et qui dans les concours de chiens et de mécanique s'en sont trouvés toujours largement en dessous des résultats des chiens. Ainsi que, je vais dire du mal des radiesthésistes, mais aussi des chercheurs au pendule. Alors je ne sais pas quelle est la proportion, le pendule on trouve aussi.
Alors là, c'est une truffe du Périgord.
Oui, c'est une truffe du Périgord. On la reconnaît par son écorce verruqueuse, qui est encore un petit peu rougeâtre, qui n'est pas complètement brun foncé, parce que la truffe n'est pas mûre. Alors, si je fais une coupe dans la truffe, je m'aperçois qu'elle est encore blanche, parce qu'elle n'est pas mûre. tous ces petits trous, c'est des trous de verre, des petits verres qu'on a vus tout à l'heure. Et malgré que la truffe soit pas mûre, on voit déjà bien les fameuses veines blanches qui sont des veines stériles. Et entre ces veines blanches, il y a une partie un peu plus foncée, c'est la partie qui renferme les asques et les spores. Il est vraisemblable que les asques sont encore vides ou alors que les spores à l'intérieur des asques sont encore translucides, peu colorés, pas mûrs. C'est une truffe, si on l'avait laissée en place, on l'aurait récoltée au mois de décembre, la chair serait devenue noire violacée, elle aurait augmenté de taille, elle aurait peut-être atteint 150 ou 200 grammes et puis elle aurait eu un parfum beaucoup plus puissant.
Alors, il y a d'autres espèces de truffes?
Oui. Les gens connaissent tous la truffe du Périgord, mais il y a en Europe une vingtaine d'espèces de truffes dont une dizaine sont comestibles. Alors les plus connues en France sont, après la truffe du Périgord, la truffe de Bourgogne, Tuber incinatum, la truffe d'été, Tuber estivum, et le tuber brumal, qui est une truffe voisine de la truffe du Périgord et qui est considérée par la législation française comme la truffe du Périgord, qui donne droit à l'appellation truffée. En Italie, il y a évidemment la fameuse, la prestigieuse truffe blanche du Piémont, Tuber magnatum, qui est une truffe que je n'ai jamais trouvée en France, une truffe très prisée des Italiens et de certains gourmets français, une truffe qui se vend sur le marché jusqu'à 15 000 francs le kilo. Alors que la truffe du Périgord, en Italie, ne dépasse pas l'équivalent de 3 000-4 000 francs le kilo.
Gérard Chevalier, vous êtes chargé de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand et vous travaillez sur la truffe. Alors, vous travaillez depuis 1967 sur la truffe. Il faut dire qu'en 1970, vous avez fait une grande découverte qui était les plants mycorhizés par la truffe. Alors on en parlera tout à l'heure. C'est un procédé qui, en tout cas, permet aujourd'hui de cultiver la truffe. Mais avant, on peut se demander pourquoi en 1967, vous avez eu l'idée de vous intéresser à la truffe.
En fait, la station de pathologie végétale de l'INRA de Clermont-Ferrand a travaillé sur la truffe en 1967 à la demande du trufficulteur eux-mêmes. Mon ancien patron, M. Grant, qui est en retraite actuellement, travaillait avec les Périgourdins sur la culture de la noix. Et il a été au courant de la diminution de la production de truffes dans le Périgord, les agriculteurs se plaignaient de ne plus récolter de truffes et lui ont demandé s'il acceptait de travailler sur la truffe. Monsieur Grant a dit d'accord, mais il me faut un collaborateur, un scientifique pour m'aider. Il a fait la demande à l'INRA de Paris. On lui a accordé un scientifique et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand à travailler sur la truffe. À l'époque, je n'avais jamais vu de truffe, je n'en avais jamais mangé, donc on peut dire que lorsque j'ai commencé à travailler sur la truffe, je n'avais pas d'idée préconçue, et ça a été une bonne chose.
Alors, pas d'idée préconçue, justement, vous êtes allé voir, vous avez parlé, je pense, avec ces paysans, et qui se plaignaient d'une régression de la truffe, mais qui étaient expliqués comment, pourquoi la truffe, tout d'un coup, il n'y en avait plus.
Oui, alors au sujet de la disparition, la régression de la truffe, il y a tout un tas d'hypothèses. On parlait de maladies de la truffe, de virus qui attaquaient la truffe. Je pense, et je ne suis pas le seul, que la diminution de la production truffière, qui est passée de 2000 tonnes à la fin du siècle dernier à 10-20 tonnes actuellement, cette régression était due à un manque d'entretien des truffières. Jadis, à la belle époque de la truffe, les trufficulteurs avaient le temps de s'occuper des truffières, de les tailler, de cultiver le sol, de maintenir le sol propre. Il faut savoir qu'ils cultivaient les truffes à la main, hein, à la pioche, au bigot. Évidemment, après la saignée et la Première Guerre mondiale, beaucoup de ces trufficulteurs, malheureusement, ont disparu. Les méthodes de culture ont changé. Il n'était plus question de travailler les truffières à la pioche, si bien que les truffières se sont épaissies, c'est devenu des bois, et la truffe du Périgord n'aime pas une ambiance boisée avec ombre, excès de matière organique. La truffe a régressé faute d'entretien. Je pense qu'également, en plus du manque d'entretien des truffières, il y a eu un épuisement des truffières. La belle époque des truffières, c'était l'époque à laquelle on a remplacé les vignes qui étaient détruites par le phylloxéra par des chênes truffiers. Ces truffières ont beaucoup donné jusqu'à la guerre de 14. Elles ne peuvent pas donner indéfiniment. Les arbres se sont épuisés, les sols se sont épuisés et il aurait fallu les renouveler. Ce qu'on fait actuellement avec le plan mycorhizé et avec la fertilisation contrôlée des truffières.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous parlez déjà de culture de truffes. Tandis que, bon, je crois que c'est un vieux mythe tout de même de vouloir cultiver la truffe.
Oui, la première personne qui a eu l'idée de cultiver la truffe, c'est un humble paysan du Vaucluse qui s'appelait Talon, qui a eu l'idée de semer des glands. Talon a obtenu de bons résultats. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait des germes de truffes, des propagules de truffes un peu partout. Il suffisait de semer un gland. Ce gland, en germant, donnait des racines. L'inoculation se faisait automatiquement, toute seule, en contact des racines et des propagules de truffes qui se trouvaient dans le sol. Maintenant, ce n'est plus le cas. La truffe a diminué, il y a des compétiteurs dans le sol, il y a moins de propagules de truffes, donc il est bon de réensemencer le sol par des moyens que nous verrons tout à l'heure, en particulier par la plantation de plants mycorhizés par la truffe.
Alors, il faut expliquer tout de même que la truffe a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas pousser toute seule, elle a besoin d'un arbre.
Oui, la truffe est un champignon mycorhizien qui, contrairement aux saprophytes comme le champignon de Paris ou le pleurote, qui a besoin d'un arbre pour se développer. Tous ces champignons, comme le cèpe, la chanterelle, les truffes, sont des champignons qui vivent en association avec l'arbre. Et l'association se fait au niveau d'un organe mixte arbre-champignon qu'on appelle la mycorhize. Alors, la mycorhize, elle a été décrite pour la première fois et son fonctionnement a été décrit également en 1885 en Prusse par un chercheur prussien qui s'appelait Frank. Pour la petite histoire, il est intéressant de savoir que Frank a découvert les mycorhizes en travaillant sur les truffes parce qu'il existait à l'époque, il existe toujours, une truffe qu'on appelle la truffe de Bourgogne, qui était assez commune en Prusse. Et le roi de Prusse avait demandé à Frank de faire une étude pour essayer de cultiver cette truffe, la truffe de Bourgogne. Et c'est en prospectant les zones à truffes que Frank a décrit pour la première fois les mycorhizes et qu'il a expliqué leur fonctionnement. Malheureusement, les mycorhizes que Frank a décrites n'étaient pas des mycorhizes de truffes. Les mycorhizes de truffes ont été décrites plus tard, en 1962, par les chercheurs italiens de Turin. Comment les Italiens ont découvert la mycorhize de truffes? Eh bien, ils travaillaient sur les mycorhizes en général, les mycorhizes des pépinières, de pépinières forestières, de pins vémouth, et ils décrivaient les mycorhizes. Et ils essayaient de les baptiser en faisant la corrélation entre la présence de corps fructifères du champignon et la présence d'un certain type de mycorhize. C'est-à-dire, plus clairement, ils se sont rendus compte que dans leur pépinière de pin vémouth, ils trouvaient beaucoup de truffes, d'une petite truffe sauvage qui s'appelle Tuber maculatum, qui n'a aucune valeur du point de vue gastronomique. Donc ils se sont rendus compte que, toujours en corrélation avec la présence de ces truffes, il y avait un type particulier de mycorhize. C'était très important parce que le fait de connaître avec précision la morphologie de la mycorhize de truffes, ça permettait les études qui vont suivre, en particulier la création du plan mycorhizé.
Parce qu'on commence tout de même un peu à savoir à quoi sert la mycorhize à la fois pour l'arbre et à la fois pour le champignon.
Oui, on ne connaît pas tout. Hein. Si on connaissait tout, on arriverait à produire des truffes et d'autres champignons sans arbres. La mycorhisation, c'est une symbiose qui est bénéfique pour les deux partenaires de la symbiose, c'est-à-dire pour l'arbre et pour le champignon. L'arbre fournit aux champignons essentiellement des sucres, des acides aminés et des vitamines que le champignon est incapable de synthétiser lui-même.
C'est parce qu'ils n'ont pas de chlorophylle ?
C'est ça. Les champignons n'ayant pas de chlorophylle ne peuvent pas synthétiser leur sucre. Alors, le champignon récupère dans la racine de l'arbre des sucres qui sont synthétisés dans les feuilles de l'arbre. Bon, ça profite aux champignons. Mais pour qu'il y ait une vraie symbiose, il faut que l'association bénéficie aux deux partenaires. Alors, en échange, le champignon, lui, puise dans le sol certains éléments minéraux, parce que le champignon a une faculté d'absorption des éléments minéraux qui est supérieure à celle de la racine seule, la racine non mycorhizée. Le champignon absorbe essentiellement du phosphore, mais également de l'azote, de la potasse, des oligoéléments, et ce champignon les restitue à l'arbre. Donc il y a un courant de la mycorhize dans les deux sens. En plus, le champignon favorise l'alimentation hydrique de l'arbre.
Il faut dire que le champignon, il faudrait peut-être le décrire, parce qu'il y a effectivement ce que nous connaissons, qui est le fruit qui est sur la terre, et puis il y a tout ce qui se passe en dessous, qui permet de prendre ces minéraux.
Oui, les gens, en général, assimilent aux champignons la partie fructifère, c'est-à-dire, pour les champignons, pour les basidiomycètes, pour les champignons hypogées, le chapeau et le pied. En fait, ça, ce n'est que la partie fructifère du champignon. Il y a ce qu'on appelle la partie végétative, qui est dans le sol, qui est constituée par des filaments mycéliens, également sous forme de mycorhize. Le champignon vit à l'intérieur de la mycorhize, est bien protégé dans la mycorhize des facteurs climatiques externes, du froid, la sécheresse, etc. Lorsqu'on a récolté la partie fructifère, le chapeau et le pied, il reste une partie végétative qui va, l'année suivante, redonner des corps fructifères.
Alors une fois qu'on a eu découvert tout ça, les choses ont été assez rapidement.
Oui, lorsque on a connu avec précision la mycorhize de truffe, on a pu faire les synthèses, c'est-à-dire créer artificiellement l'association entre la truffe et le champignon qui se fait naturellement dans la nature. On a pu contrôler, puisqu'on connaissait la mycorhize, que les mycorhizes formées sur le plan inoculé étaient bien les mycorhizes de truffe. Ça donnait naissance au plan mycorhizé par la truffe. Et tout cela s'est fait vers les années 69-70. À Clermont-Ferrand, nous avons sorti nos premiers plans mycorhizés par la truffe en 1970 exactement.
C'est-à-dire que dans un laboratoire, vous avez pris des petits plants d'arbres susceptibles d'être mycorhizés et que vous les avez saupoudrés de spores de truffe.
Tout simplement, on a utilisé une méthode très très simple. On a récolté des glands à des noisettes, on les a fait germer de manière à obtenir des petites plantules. Et lorsque les petites plantules avaient un système racinaire suffisamment développé, c'est-à-dire lorsque les plantules avaient 2-3 mois, on a mis au contact des racines de ces plantules des suspensions de spores de truffes, c'est-à-dire on broyait des truffes dans de l'eau et on mettait cette bouillie au contact des racines. Et au bout de quelques mois, il fallait au moins 2-3 mois, on obtenait des mycorhizes qu'on pouvait contrôler puisqu'on connaissait la morphologie des mycorhizes.
Alors une autre date importante, c'est 1977.
C'est 1977, effectivement, parce qu'on attendait avec impatience ce qu'allaient devenir ces plants mycorhizés par la truffe. Et en 1977, en décembre 1977, donc 4 ans après plantation, les premières truffes du Périgord sont apparues en Bourgogne. Nous nous expliquons maintenant pourquoi nous avons obtenu des truffes sur les plants mycorhizés artificiellement, déjà en Bourgogne et par la suite dans le Périgord et dans le sud-est de la France. C'est pour deux facteurs essentiels. D'abord, les bourguignons n'ont pas planté leurs plants mycorhizés dans des sols mauvais, dans des sols pauvres, dans des sols secs, comme cela a tendance à se faire dans le midi de la France. Ils ont planté leurs plants mycorhizés dans des terrains où ils faisaient auparavant des céréales. Ainsi, le plant mycorhizé a bénéficié de la fertilité du sol, des engrais éventuellement qui subsistaient dans le sol au moment de la culture des céréales. Et ils se sont développés très très rapidement, ils ont formé la truffe au bout de 4 ans. Autre facteur, c'est qu'au point de vue biologique, les sols où ont été plantés ces plants mycorhizés étaient propres, beaucoup plus propres que certaines zones du Périgord où les gens plantent après des friches. Ou lorsque vous enlevez le bois ou la friche, il reste dans le sol des propagules, des gerbes de champignons mycorhiziens étrangers. Et ces germes risquent d'entrer en compétition avec la truffe que vous introduisez. Dans le cas de sols qui ont été pendant plusieurs dizaines d'années en céréales, il y a beaucoup moins de compétiteurs et la truffe s'implante beaucoup plus facilement. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on introduit un plant mycorhizé dans le sol, c'est la guerre entre les indigènes, les champignons qui étaient déjà préexistants dans le sol, et la truffe que l'on introduit. Les champignons indigènes ont tendance à essayer d'éliminer cet importun qui n'existait pas dans le sol auparavant.
Monsieur Chevalier, alors quand on veut faire une truffière, par quoi il faut commencer ?
D'abord, avant de dire par quoi il faut commencer, je vais vous expliquer rapidement les quatre principes de base pour réussir une truffière. D'abord, il faut choisir un sol qui convient et implanter la truffière dans une zone où le climat convient. Le deuxième point, c'est qu'il faut choisir l'essence truffière, c'est-à-dire l'arbre le mieux adapté au climat et au sol de la région où on veut planter. Le troisième point, c'est qu'il faut inoculer le sol par l'intermédiaire d'un plant correctement mycorhizé. Et le quatrième point, c'est une fois la plantation faite, il faut maintenir les conditions de sol telles que le mycélium, le champignon qu'on a implanté, non seulement se maintienne, mais qu'au bout de quelques années, il puisse fructifier correctement, convenablement.
Alors ce n'est pas le tout d'avoir un bon sol, il faut aussi s'occuper des arbres, ça demande tout un travail d'entretien
oui,
une truffière.
En 1981-82, j'ai planté des noisetiers et des chênes procurés par l'INRA.
Monsieur Théard de Jardin.
J'ai reçu des arbres de un an, mycorhizés, qu'il a fallu entretenir avec beaucoup de soin les premières années, avec des arrosages chaque fois que c'était nécessaire, c'est-à-dire... Il s'agissait de maintenir une fraîcheur permanente au pied des arbres pour que le mycélium ne disparaisse pas. Protéger les arbres contre les lapins. Après quoi, quand l'arbre a gagné 1, 2 et 3 ans, il a fallu orienter cet arbre vers des formes qui lui permettaient de profiter au mieux de la lumière. Alors, et aussi au sol de se réchauffer vite sans être trop ombragé. Maintenant, la plantation est en 11e et 12e pouce. Et on peut se demander s'il ne faudra pas prendre une décision drastique dans les années qui viennent, car il y a beaucoup trop d'ombre. Peut-être faudra-t-il tailler très fortement les noisetiers pour donner plus de chance aux chênes. La plantation de noisetiers a donné néanmoins autant de truffes que les chênes.
Et vous avez fait vérifier que la mycorhization avait bien pris ?
La mycorhization a bien prise. Chaque plant avait reçu une note de mycorhization qui était reportée sur les étiquettes au moment où on l'a planté. En fait, la mycorhization semble s'être équilibrée, au moins dans la partie inférieure de la plantation, qui est plus calcaire que la partie supérieure et où les brûlés se touchent, donc il n'y a plus de mauvaises herbes.
Mais habituellement, qu'est-ce qu'on appelle le brûlé ? C'est-à-dire, qu'est-ce que provoque la truffe quand elle...
Le brûlé, c'est une zone sans herbe qui, en général, est située, c'est une zone circulaire, et le tronc de l'arbre est au centre de cette zone circulaire. Alors, cette zone circulaire, elle est due au fait que le champignon, que le mycélium, sécrète des substances herbicides, des substances qui font crever l'herbe. Et on dirait que l'herbe a été brûlée. C'est pour ça qu'on appelle ça un brûlé. Donc, ici, on ne les voit pas parce qu'ils se rejoignent tous. Là, ça brûle tellement, ça brûle partout. Donc, les brûlés se rejoignant, il n'y a plus d'herbe. Mais lorsque les brûlés démarrent, on aperçoit bien ces zones brûlées dont le tronc de l'arbre en général est au centre.
Gérard Chevalier, en 1967, quand vous êtes venu à l'INRA pour travailler sur la truffe, c'était parce que les paysans n'avaient plus de truffes. Alors aujourd'hui, est-ce que les productions sont remontées ? Est-ce que les plants truffiers ont amélioré quelque chose ?
Ça n'est pas tout à fait exact qu'ils n'avaient plus de truffes. Ils avaient encore de la truffe, mais la production avait beaucoup diminué. Alors dire si le plant mycorhizé a influencé la production à l'échelon national, c'est encore trop tôt. Je ne pense pas que... ça a influencé, ça a augmenté la production à l'échelon national. Ça viendra, mais il faut encore attendre quelques années. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que le plant mycorhizé, d'une part, a permis d'implanter la truffe là où elle n'existait pas, ou là, elle existait en très très faible quantité. Le plant mycorhizé permet de réensemencer le sol avec de l'inoculum de truffe dans des endroits où elle a pratiquement disparu ou alors l'inoculum est en très faible dose. Et ça, c'est un second avantage du plant mycorhizé.
Alors aujourd'hui, vous continuez à travailler sur les plants mycorhizés. On peut les améliorer encore ?
Le plant mycorhizé n'est pas parfait, malheureusement. Il a permis d'obtenir des succès importants, mais... il faudrait davantage sélectionner le plant mycorhizé, sélectionner l'arbre et le champignon, de manière à obtenir des plants mycorhizés encore plus performants. Le gros reproche qu'on fait aux plats mycorhizés, c'est d'être hétérogène. Lorsqu'on aura sélectionné l'arbre le plus performant et la souche de truffe la plus performante, on arrivera à avoir du plat mycorhizé de qualité bien supérieure à celle du plat mycorhizé actuellement, qui est encore fait par semis de glands ou de noisettes.
Mais on peut faire des manipulations génétiques sur la truffe ?
C'est encore trop tôt, parce que malheureusement, le cycle de la truffe est mal connu et on ne réussit pas à faire germer de manière régulière les spores de truffe in vitro. Donc, il est encore beaucoup trop tôt pour les manipulations génétiques.
Pourquoi c'est si mystérieux, la truffe ?
C'est mystérieux, je ne sais pas encore. J'ai eu la visite d'un planteur de truffes, d'arbres truffiers, du triangle des pattes, du tricastin, qui me disait, quand vous serez digne, c'est-à-dire un très bon trufficulteur, je vous expliquerai le rapport qu'il y a entre la Vierge Noire et la truffe. Alors j'ai cherché mes vieux souvenirs et dictionnaires mythologiques et je me suis aperçu que la Vierge Noire, très sagement, l'Église avait peut-être baptisé certains lieux de culte d'Isis ou de Perséphone, qui étaient les déesses souterraines. Et on peut penser que la truffe, qui est noire, qui vit sous le sol, n'est pas du domaine de Cérès, qui fait pousser ce qui est au soleil, le blé. Et alors nous sommes un peu sous la tutelle ou le patronage des Vierges Noires, donc peut-être d'Isis, de Perséphone et autres mythologies. Alors une partie du mystère de la truffe, complétée par la citation biblique « Nigrassum sed formosa » que tout le monde connaît. « Je suis noire mais belle, hein, alors la truffe c'est très précieux. »
Perspective scientifique, si on cultivait la truffe, par Sophie Billot, avec Gérard Chevalier, chargé de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand, et Monsieur Taillard de Chardin, trufficulteur. Groupe de réalisation, Gérard Servet, Marie-Christine Closet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 septembre 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.